Bonsoir.
Je vous invite à ouvrir la Bible dans les Actes, chapitre 14. Nous allons faire quelques lectures de plusieurs versets. Actes, chapitre 14, verset 8. Il est dit « À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs, qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Amen. Amen. Un passage très particulier, un peu contradictoire aussi, parce qu'on voit que d'un côté, il y a des guérisons, et puis de l'autre côté, il y a une persécution envers l'apôtre Paul. Il y a même, à un moment donné, la foule qui est là, qui veut rendre honneur à l'apôtre Paul par rapport à ce qui a été fait, et toutes sortes de choses qui prennent place dans cette histoire. Mais je voudrais, en premier lieu, m'arrêter sur ce qui s'est passé pour cet homme, ce boiteux qui était là. Ce boiteux, il avait un seul problème. La Bible nous dit, au verset 7, « Il se tenait assis un homme impotent des pieds. » Un boiteux de naissance, quelqu'un qui n'avait jamais marché. Et quand on regarde le mot impotent, c'est le même mot qui est utilisé dans d'autres fois pour dire impossible, ou totalement faible, totalement sans puissance, totalement invalide. Et il est bien précisé, impotent de quoi ? Impotent des pieds. C'est-à-dire que son seul problème, il avait une seule chose qui n'allait pas dans sa vie, peut-être qu'il en avait d'autres, mais du moins ce n'est pas écrit, il était impotent des pieds. Mais vous savez très bien comme moi qu'il suffit d'avoir un problème dans sa vie pour que tout le reste soit gâché, pour que ça contamine tout le reste. Et si tous les domaines de notre vie vont bien, sauf un seul endroit, eh bien ça peut réduire à néant notre espoir. Je pensais à cet homme, toutes les fois où il avait peut-être émis le désir de devenir pêcheur, par exemple, c'est un métier de l'époque. Eh bien, il ne pouvait pas le faire, il lui était impossible de marcher. S'il aurait voulu devenir soldat, pas possible. S'il voulait devenir berger, impossible. S'il voulait devenir ouvrier dans les champs, impossible. Et combien de métiers comme ça, il a dû mettre une croix dessus parce qu'il ne pouvait pas le faire à cause de son incapacité, à cause de son impuissance. Au niveau de ses pieds, il ne pouvait pas marcher. Combien de choses il n'a pas pu faire aussi ? Pensez simplement le fait d'aller se promener. Ça vous arrive des fois d'aller dans la forêt ou dans la nature, peu importe, et de vous promener, d'admirer cette création. C'est combien c'est merveilleux, mais cet homme, il ne pouvait même pas faire ça. Je crois que les fois où il pouvait se déplacer, c'est parce qu'il y avait des gens de bonne volonté qui venaient l'aider à se déplacer. C'était impossible pour lui de faire comme tout le monde, d'avoir une vie normale. Et je pense que des fois dans nos vies, il y a des choses comme ça, des problèmes qui nous handicapent, des problèmes, un seul problème qui est là et qui peut nous handicaper totalement, nous bloquer pour tout le reste. On a des exemples dans la parole de personnes qui sont un peu dans cette situation. Ce n'est pas un problème physique forcément, c'est quelque chose de moral, mais qui est là et qui les bloque. Je pensais à ce jeune homme riche. Il avait une seule chose, lui dit Jésus. « Te manque une chose !» Mais cette seule chose, cet amour de l'argent qu'il avait, ça l'a bloqué pour que son progrès spirituel. Une chose, Sarah, la femme d'Abraham, elle avait un problème aussi, c'est qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle croyait en Dieu, elle croyait que Dieu était puissant, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand elle entend la promesse de l'ange qui dit que l'an prochain vous aurez un fils à la même époque, elle a commencé à rire dans son cœur. Des fois, on est comme ça par rapport à la parole de Dieu. Des fois, on pense que ce que Dieu nous dit, c'est beau, c'est merveilleux, mais on a quelque chose dans le cœur qui dit que ce n'est pas vrai. Et ce soir, on a besoin peut-être de déposer cela. Je pensais à Marthe, quand son frère est mort, depuis plusieurs jours, et qu'elle voit le Seigneur Jésus arriver, elle dit au Seigneur, « Seigneur, je sais que tout ce que tu as demandé, Dieu va te l'accorder. » Est-ce que ce n'est pas une preuve de foi magnifique? Et pourtant, quand Jésus lui dit « Ton frère va ressusciter », elle dit « Oui, oui, je sais qu'il va ressusciter bien plus tard, dans de nombreux siècles, quand il y aura la résurrection des justes. » Elle croyait qu'il allait ressusciter, mais elle ne croyait pas que Jésus allait le faire ressusciter tout de suite. Elle croyait à tout, que Jésus était capable de tout, sauf de le faire ressusciter à ce moment-là précisément. Et des fois, il y a des choses comme ça qui bloquent notre vie. Heureusement, le Seigneur ne tient pas compte forcément de ce que nous on pense. Il a un plan prévu et il a ressuscité Lazare. Et s'il y a des choses qui nous paraissent impossibles, pour lui, rien n'est impossible, comme nous le dit la parole. Je pensais à des problèmes qui peuvent nous toucher de près. Le fait de ne pas pardonner, le non-pardon qui est là dans notre cœur. Quand on se dit « c'est impossible que je lui pardonne après tout ce qu'il a fait ». Est-ce qu'on n'a jamais vécu des moments comme ça, où on dit « c'est impossible, il m'a fait tellement souffrir, telle personne m'a fait tellement souffrir, je ne pourrai jamais lui pardonner ». Quelqu'un qui a les soucis du siècle présent dans le cœur, c'est impossible que je me préoccupe de Dieu maintenant, il y a trop de choses que je dois faire, je n'ai pas le temps de m'occuper des choses de Dieu, c'est impossible ». C'est impossible que j'arrive à obéir à Dieu, un cœur partagé. J'aime tellement les plaisirs de ce monde. Tellement de choses qui sont là, qui peuvent nous paraître impossibles. Et je pensais à ce verset, « Jusqu'à quand clocherez-vous les deux pieds ?» Un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Et quand on réalise que la différence qu'il y a entre la lumière et les ténèbres, je pensais que c'est autant impossible d'avancer quand on a un pied dans le monde et un pied dans l'Église que si on fait le grand écart et qu'on essaie de marcher. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais je vous invite à le faire. C'est impossible. Et la liste, on pourrait la continuer, toutes les choses qui font que il y a quelque chose qui est impossible dans notre cœur qu'on puisse réaliser. Mais la Bible va encore plus loin que ça. Elle nous dit que oui, nous avons chacun nos propres faiblesses, nos propres difficultés, mais elle dit que tous les hommes sont impotents, sont impuissants dans quelque chose. Vous le savez ça? Eh bien, on peut lire justement dans Matthieu, chapitre 19. On ne va pas lire l'histoire du jeune homme riche, mais la suite, ce qui a été déduit de cette histoire avec Jésus et les disciples. Matthieu, chapitre 19, verset 23. Vous pouvez garder quand même acte 14, on y reviendra juste après. Matthieu 19, 23, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. » Vous avez remarqué, justement, que aux hommes, cela est impossible. Alors, on est bien d'accord, juste avant il parle des riches, mais quand il parle des hommes, il parle de tous les hommes. Ce n'est pas qu'aux riches que c'est impossible d'être sauvé, c'est aux riches, aux pauvres, à celui qui est haut en dignité, à celui qui est dans la rue. À tous ces hommes, il leur est impossible d'être sauvés par eux-mêmes. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, on l'a dit déjà. Mais de quoi est-il question ? Il est question de cette question, justement, que les disciples posent. Ils voient l'histoire de ce pauvre jeune homme riche qui est là, et ce pauvre jeune homme riche, et ils sont là, ils se disent, mais comment lui qui avait tellement de vertus, qui a fait tellement de choses, lui, il ne peut pas être sauvé. Mais qui peut donc être sauvé? Le problème, c'est ça. Tous les hommes sont sans puissance devant le salut de leur âme. Tous les hommes ne peuvent rien, sont comme ce boiteux qui était incapable de marcher. Tous les hommes sont incapables de marcher dans le salut par eux-mêmes. Souvent, on entend des gens qui nous disent « Ah, mais pourquoi est-ce que Dieu a fait les hommes pécheurs ? Parce que du coup, ils ne peuvent pas réussir ce que Dieu a prévu, donc il va les punir parce que c'est lui qui les a créés comme ça. » Et quand on prononce ces paroles, c'est qu'on ne connaît pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il nous dit qu'il a fait les hommes droits, mais que les hommes, ils ont cherché beaucoup de détours. Ce Dieu de la Bible, il nous dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais c'est l'homme qui refuse, l'homme qui est rebelle, l'homme qui rejette la parole de Dieu. Si les hommes sont sans puissance pour être sauvés, Dieu par contre, il est tout puissant. Quand on regarde l'histoire de ces boiteux, justement, on revient à Actes 14. Dieu est puissant pour voir ce qui nous arrête. Il avait vu que cet homme, il avait un problème. Et parce qu'il avait vu que cet homme était dans cette situation impossible, pour les hommes, sa vie était finie. C'était soit il allait stagner, il n'allait pas dégrader plus, soit il allait encore s'empirer dans sa situation. Mais ça n'allait pas s'améliorer pour les hommes. Mais Dieu, lui, voyait que s'il envoyait un de ses disciples prêcher la bonne nouvelle, il allait être guéri. Dieu, il sait, il prévoit, il anticipe toutes choses et il a permis que le mal soit changé en bien parce qu'on se rend compte que dans les circonstances, comment Paul il est arrivé à Lystre. Si vous lisez juste au-dessus, vous voyez qu'à Lystre, Paul, il était dans un moment particulier où il prêchait la parole et les gens, ils étaient là, ils répondaient, il y avait quelque chose qui se passait, des grandes multitudes qui commençaient à croire, mais en même temps, il y a eu une persécution qui a commencé à se lever aussi. Il y avait quelque chose de bien, mais il y a eu une persécution, l'ennemi, le diable n'était pas content que ça se passe, que des gens croient au Seigneur, que des âmes soient sauvées, alors il a envoyé une persécution, il y a des païens qui ont commencé à se lever, il y a des juifs qui ne croyaient point, qui ont commencé à aigrir les esprits, là je vous lis rapidement ce qui est dit. Et du coup, Paul a été obligé, lui qui aurait bien aimé rester je pense, à Icone, il a été obligé d'aller à Lystre. Et comme par hasard, il a fait la rencontre de cet homme qui a entendu la voix de l'Évangile, et il a pu être guéri. Est-ce que vous savez que Dieu est puissant pour changer le mal en bien ? Cette persécution, elle a servi à la bénédiction d'un homme, mais Dieu est puissant aussi pour guérir. Je pensais à ce témoignage que j'ai eu l'occasion d'entendre cette semaine. On allait voir une dame dans une maison de retraite à qui on avait déjà parlé de Dieu, avec qui on avait prié. Et je me souviens que la dernière fois, il y a quelques mois en arrière, on avait partagé la parole et on avait simplement demandé « Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on prie ?» Et je me souviens qu'à cette époque, elle avait dit « Mais je voudrais qu'on prie pour mon petit-fils parce qu'il est malade, il a un problème, une maladie des intestins, quelque chose de très grave, ils lui ont posé un anus artificiel, il a perdu tout du poids, il est plus qu'un squelette, la peau sur les os, il est fatigué, et il est totalement désespéré, il peut plus rien faire. Quand on voit la liste des choses qui lui sont interdites, il doit pas manger ceci, il doit pas manger cela, il doit pas boire beaucoup d'eau, toutes sortes de choses qui lui étaient impossibles de faire. » Et puis, cette semaine, on a eu l'occasion de la voir, donc plusieurs mois après. Et moi, tout simplement, j'ai dit, mais comment va votre petit-fils, au fait, pour qui on avait prié ? Et puis, elle me dit, mais mon petit-fils, il est totalement guéri. Il est totalement remis, il a repris les forces, il a trouvé un travail, il est à fond dans son travail, tout lui va bien, tout lui réussit. Et je lui ai dit, mais vous vous souvenez qu'on avait prié pour lui ? Et la dame, elle me dit, mais non, j'avais oublié. En plus, c'était pas la première fois. Elle a vécu quelque chose, cette dame, où Dieu l'a exaucée de manière incroyable. Et enfin, bref. Mais je lui ai dit, mais si vous avez oublié que vous aviez prié, Dieu en tout cas, il n'a pas oublié votre prière. Et Dieu, il l'a exaucée parce qu'il est puissant pour guérir. Bien sûr, il a pu se servir des docteurs, mais Dieu est puissant pour guérir. Combien de personnes sont dans la même situation et ne guérissent pas ? Mais Dieu est puissant pour guérir. Et on voit que c'est pas Paul qui a guéri parce qu'il avait quelque chose de particulier de la part de Dieu. On regarde au verset 3, il est dit, ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, parlant avec assurance appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Qui c'est qui permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles, si ce n'est Dieu ? Dieu est puissant pour guérir, mais Dieu utilise ses serviteurs pour guérir aussi. Et voilà ce qui a fait que cet homme a connu cette guérison incroyable. Et Dieu sait exactement, nous ce soir, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est impossible dans notre vie, dans lequel on ne peut plus progresser, sur lequel on a fait une croix? Mais Dieu veut changer le mal en bien. Dieu veut nous apporter la guérison et nous permet ce soir d'entendre cette parole pour qu'on puisse justement aller encore plus loin. Une autre chose qu'on va voir dans Hébreux chapitre 10, verset 1er, une autre chose est sans puissance. Les hommes sont sans puissance, mais il y a quelque chose d'autre qui est donné dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, on peut lire à partir du verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Là, il est fait question de la loi de Moïse qui demandait des sacrifices. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs offre le péché. Il est fait référence à toutes les prescriptions de l'Ancien Testament par rapport aux sacrifices qui devaient être faits. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour un péché, il fallait un sacrifice. Si je mentais, il fallait que j'offre un sacrifice. Si j'avais de la convoitise, il fallait que j'offre un sacrifice. Si je volais, il fallait que j'offre un sacrifice. Il y avait toutes sortes, bien sûr, toutes sortes de commandements qui les accompagnaient. Mais ce n'était pas un sacrifice unique. C'était quelque chose qui était sans puissance face au péché, parce que c'était pour le combler à ce moment-là, mais quand le péché revenait, il fallait recommencer. Pour 1000 péchés, il fallait 1000 sacrifices. Vous imaginez le nombre de taureaux et de boucs qu'il fallait. Mais cela nous montre surtout, cette phrase elle est claire, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ça nous montre que la loi, aujourd'hui on pourrait l'appeler la religion, elle est sans puissance pour ôter le péché. La religion, elle est sans puissance pour nous donner une vie nouvelle. Le boiteux, il avait un grand problème, il avait cette difficulté, il aurait pu faire tous les actes religieux de l'époque, il n'aurait pas pu changer dans sa situation. Mais, quelle que soit la gravité de son souci, il était quand même une personne que Dieu aimait. Et quel que soit ce que nous pouvons traverser, je crois que le Seigneur nous aime de cet amour si immense qu'il ne veut pas nous laisser dans cette religion inutile. Quand on voit ce que dit l'apôtre Paul à ces personnes, on revient dans Acte 14, il leur dit, mais laissez tomber ces choses vaines. Laissez tomber cela. Laissez tomber cette religion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé pour lui, mais de ce qui s'est passé pour ces personnes, mais ils étaient en train d'écouter l'apôtre Paul. Il n'y avait pas que le boiteux, il y avait toute une foule qui était là. Ils étaient en train d'écouter l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul prêchait, à votre avis? Il prêchait Jésus-Christ sur la croix, le sacrifice, la résurrection, le retour du Seigneur, il prêchait tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, commencé à vouloir faire ces hommes quand ils ont entendu ce message? Le boiteux a bien réagi, mais les autres, ils ont voulu offrir un sacrifice. Paul est en train de leur dire, non, il n'y a qu'un sacrifice unique. Jésus-Christ est venu offrir ce sacrifice qui remplace tous les autres. Et eux, ils viennent, et leurs bonnes habitudes religieuses font qu'ils veulent offrir un sacrifice. Et des fois, Dieu nous dit des choses de manière claire, précise et nette, et nous, on est là, on veut à nouveau retourner dans notre vie d'avant, et essayer d'obéir à ce que Dieu nous demande, mais en tordant en ne comprenant pas ce qu'il nous demande. Le seul qui a accompli le sacrifice parfait, c'est le Seigneur. Le seul qui ôte le péché du monde, c'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'était le seul. Pourquoi? Parce que c'est celui qui n'a jamais péché. Et c'est pour ça que son sang qui a coulé peut pardonner le péché de tous. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si Jésus n'avait pas versé son sang pur, et sans tâche, alors nous ne pourrions pas être sauvés et nous serions toujours sans puissance. Mais la religion est vaine. Et qui c'est qui a ordonné les sacrifices? Qui c'est qui a ordonné qu'on égorge des taureaux et des boucs, toutes ces choses un peu bizarres pour nous aujourd'hui? Qui c'est qui l'a ordonné à l'époque? C'est Dieu. Est-ce que c'était mal en soi? Non. Et ce qu'on a lu, c'est que c'est des images de ce sacrifice qui allait venir. Ce sont des types, comme on dit dans le vocabulaire chrétien. Mais c'est des choses qui doivent nous parler de ce que Jésus a fait, lui. Mais ces choses-là, il est impossible qu'elles ôtent notre péché. Ce que Dieu a pourtant prescrit des années auparavant, c'est impossible que ça ôte notre péché. Pour nous aujourd'hui, la religion et les meilleurs principes et les meilleures paroles de sagesse et les meilleures, la meilleure intelligence, les meilleures choses que nous pouvons faire, les meilleures bonnes œuvres, ne peuvent pas nous sauver. Est-ce que c'est bien de faire du bien aux gens? Est-ce que c'est bien d'avoir de bons principes moraux? Oui, mais c'est sans puissance pour nous sauver. C'est sans puissance pour ôter le péché. La religion est vaine. Je pensais à cet homme, c'était, je ne sais plus en quel siècle, je crois les premiers siècles, Jean Chrysostome. Il était surnommé Chrysostome, ça veut dire bouche d'or, parce qu'il avait un art oratoire incroyable. Il avait une façon de parler, une éloquence tellement impressionnante que les gens venaient en foule pour l'écouter. Mais cet homme, il avait une tristesse dans le cœur, c'est qu'il voyait des gens venir en foule l'écouter. Il les voyait, quand il avait prêché, applaudir son message, et puis il repartait totalement de la même façon. S'il avait prêché sur le mensonge, il repartait en mentant. S'il avait prêché sur tel et tel sujet, il repartait avec les mêmes péchés dans le cœur. Il n'y avait aucun changement qui se passait. Et cet homme, un jour, il a dit, mais ça suffit, il faut que maintenant je prêche à ces gens, qu'il y en a assez qu'ils applaudissent, qu'il faut qu'ils mettent en pratique. Et il commence à sortir un sermon de derrière les fagots, quelque chose de bien construit, tout ce que vous voulez, des métaphores, de toutes sortes de choses incroyables, une façon de parler impressionnante. Et puis à la fin, lui qui pensait avoir persuadé les gens qu'il ne fallait pas qu'ils applaudissent, c'était tellement beau qu'ils se sont mis à applaudir. Et cet homme, il était consterné. Et j'ai trouvé cet exemple remarquable pour montrer combien la religion peut être vaine. On peut venir à l'église, écouter des centaines et des centaines de prédications, et puis repartir comme on est. Ou alors, on peut comprendre que ce n'est pas la religion qui peut nous sauver. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice. Oui, nous sommes totalement impuissants pour être libérés du péché. On peut aller voir dans Romains. Romains chapitre 8, qui nous redit la même chose, mais qui l'explique un petit peu plus. Romains chapitre 8, verset 1er, Jésus a pris sur lui notre condamnation, et il est dit justement, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi. Car chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Chose impossible à la loi. Et il nous a expliqué pourquoi. C'est impossible à la loi. Ce n'est pas une question que la loi n'est pas bonne en soi, c'est une question que la chair la rend sans force. Et c'est une question, je prends cette image un petit peu mathématique, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment les maths, mais c'est très simple, vous allez voir, c'est des maths faciles. 0 fois 1, ça fait combien? 0. 0 fois 100. 0. 0 fois 1 milliard. 0. Quelle que soit la valeur que la loi peut avoir, elle est neutralisée parce que la chair est sans force. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les hommes sont impuissants face au péché, face au salut de leurs âmes, ils ne peuvent rien faire. La loi peut être tellement bonne, les principes moraux peuvent être merveilleux, il y a le problème qu'il y a les êtres humains qui doivent le mettre en pratique et qui neutralisent ça. La chair la rend sans force. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi nous avons besoin de quelqu'un qui a porté notre condamnation, qui a porté la condamnation que la loi nous demandait parce qu'on n'avait pas pu l'accomplir, on n'avait pas pu la mettre en œuvre. Dieu ne demande pas que nous fassions des sacrifices. Dieu demande que nous acceptions son sacrifice. Il demande qu'on comprenne que par nous-mêmes, on ne peut pas être sauvé. La religion ne peut pas nous sauver. Notre intelligence, notre argent, nos amis, Personne ne peut nous sauver, sauf le Christ qui a donné sa vie. Sauf celui qui a porté, comme il est dit, dans sa chair, notre péché pour notre salut. Et je finis avec ce passage dans Hébreux. Les hommes sont sans puissance, la religion est sans puissance, l'incrédulité est aussi sans puissance, et ça paraît tellement évident. Dans Hébreux chapitre 11, il est dit ceci, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dans Matthieu, on voit Jésus qui retourne dans sa ville, et il est dit « Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Pourquoi ?» À cause de leur incrédulité. L'incrédulité est sans puissance. Et nous pouvons avoir la meilleure religion du monde. Nous pouvons entendre les meilleures prédications du monde. Si dans notre cœur il y a l'incrédulité, cela ne servira à rien. Nous pouvons même comprendre de manière intelligente que Jésus-Christ est le seul moyen de salut. Mais s'il n'y a pas la foi dans notre cœur, ça ne sert à rien. Par contre, la prière honnête, la prière de repentance, la prière qui monte dans le cœur parce qu'il y a eu la conviction du Saint-Esprit que l'on est pécheur et qui demande pardon de tout son cœur au Seigneur, cette prière-là, elle est puissante. Non pas que c'est la prière en elle-même, mais c'est la grâce de Dieu qui la permet. Je me souviens de cet homme qui a dit, si tu peux, Jésus qui lui a répondu, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et l'homme qui avait un problème avec son enfant, qui était possédé d'un démon, et il a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. J'aime cette prière, parce qu'elle est vraie. Il dit, oui, il y a quelque chose de la foi dans mon cœur, mais il y a aussi beaucoup d'incrédulité. Seigneur, viens m'aider. Et le Seigneur, il n'a pas laissé tomber cet homme. Mais il a exaucé sa prière, il a délivré. Pourquoi ? Parce qu'il a vu la foi dans son cœur. Est-ce que nous avons la foi ce soir pour que Dieu intervienne dans notre situation ? Est-ce que nous avons cette confiance que Dieu est capable de changer le mal en bien ? Est-ce que nous voulons avoir cette foi dans le cœur de dire « Seigneur, je crois à ton sacrifice, je crois à ta grâce, je crois à ton salut, je crois que tu es le seul qui est tout puissant pour me sauver ?» Je finis en revenant à Actes chapitre 14. Et je vous donne juste ces paroles que l'apôtre Paul a dites. Le fait d'avoir foi dans le Seigneur Jésus, ça passe par un cheminement. C'est ce que Paul a voulu dire à ces personnes qui étaient là, qui, dans un instant, ils voulaient offrir un sacrifice. L'instant d'après, ils sont laissés monter la tête pour pouvoir lapider Paul plutôt. Il leur a dit, « Nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Et nous vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Repentez-vous, laissez tomber le passé, tout ce qui est mal, le péché. Demandez pardon pour ça. Et nous vous exhortons à vous tourner vers le Dieu vivant. Maintenant, suivez le Seigneur. Maintenant, convertissez-vous, faites-vous un cœur nouveau. Obéissez au Seigneur. Marchez dans ses voies. Et vous allez voir que le Seigneur va vous donner une vie nouvelle si vous faites cela. Abandonnez le passé, ce qui est mal, et marchez vers l'avant en suivant le Seigneur et toutes ses prescriptions. Pour cela, il suffit d'une prière honnête. C'est tellement simple. Tellement de choses qui sont devant lesquelles on est totalement impuissant. Et pourtant, une prière d'un cœur honnête et tout peut être changé. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme boiteux ? Il a écouté et parlé Paul. Ce soir, on a écouté. On a écouté la parole. Et Paul a vu qu'il avait la foi. Et le Seigneur Jésus regarde ce soir et voit tout simplement si nous avons la foi dans ce qui a été dit. Ou si nous mettons toutes sortes d'obstacles, et s'il y a toutes sortes de phrases impossibles qui sont là dans notre cœur. C'est bien tout ce que j'entends, mais c'est impossible pour moi. Mes amis, ce soir, ouvrez votre cœur et dites, oui, je crois que c'est possible. Je crois que Dieu est capable, dans ma situation, parce qu'il a vu mes circonstances, il a vu ce que je traverse, je crois que Dieu est possible. Et il est possible à Dieu qu'il mette sa main et qu'il intervienne en ma faveur. On va prier le Seigneur. Merci, oui, Éternel, parce que tu nous révèles dans ta parole que nous sommes totalement démunis face au péché. Nous ne pouvons pas nous sauver, Seigneur. Nous sommes sans puissance face au salut de notre âme. Seigneur, même ce que nous pouvons faire de meilleur, la religion, les bonnes œuvres, Seigneur, elles sont sans puissance pour ôter le péché de notre cœur. Mais tu as offert ton sacrifice. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as prévu un plan parfait pour chacun de nous, pour nous purifier. Oh Seigneur, oui, tu nous montres aussi que l'incrédulité ne nous amènera à rien, Seigneur. Mais c'est cette foi que tu demandes. Cette foi de te demander pardon, cette foi de marcher dans tes principes, Seigneur. Oui, Seigneur, tu vois les cœurs ce soir. Tu vois celui qui a la foi. Tu vois celui qui a le désir d'avancer avec toi. Tu vois celui qui a le désir de mettre une croix sur le passé, de laisser tomber toutes les choses vaines et de marcher à ta lumière, Seigneur éternel. Alors, interviens de ton ciel de gloire. Guéris un cœur. Libère quelqu'un, Seigneur. Fais une œuvre miraculeuse, comme tu as pu le faire pour cet homme qui n'avait jamais marché et qui s'est levé d'un bond et qui a commencé à marcher, qui a pu expérimenter dans sa vie ta grâce infinie. Seigneur, fais-le pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui a besoin d'une guérison physique peut-être. Quelqu'un qui a besoin d'une guérison morale. Quelqu'un qui a besoin que son péché soit ôté de son cœur. Seigneur, quelle que soit la difficulté, à toi rien n'est impossible. Voilà pourquoi c'est en toi que nous voulons placer notre foi ce soir. Et nous voulons te bénir parce que nous croyons que tu es ce Dieu à qui rien n'est impossible, éternel. Oui, bénis Seigneur ces instants et fais du bien Seigneur à chacun des cœurs pour ta gloire. Amen.